Tout va bien, tout est réparé, vous écoutez France Culture et la compagnie des auteurs, toujours cheminant dans les œuvres poétiques d'Aragon, avec l'essayiste et poète Olivier Barbaran.
Suffit-il donc que tu paraisses...
Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de la persistance du thème d'Elsa dans ce que j'écris. En réalité, cela tient à ce qu'ils ont de ces choses une idée qui n'est pas de ce siècle. La femme, en général, et chose horrible à penser, une femme qui est la vôtre et non pas celle du voisin, dans la poésie, avait le droit d'être préalablement une reine ou une bergère ou une personne qui avait fait de l'amour son métier. Mais c'était tout ce à quoi les femmes avaient droit à travers les siècles. Alors nous sommes dans un siècle où les choses se passent tout à fait différemment. Aujourd'hui, admettons que la femme est l'égale de l'homme, bien que les hommes continuent à ne pas le croire. Je veux dire les autres hommes. Et dans ce siècle, la femme est donc définie par autre chose que par ses yeux. Elle est définie par sa profession, elle est définie socialement. Ceci est extrêmement important pour moi, c'est la chose essentielle que j'exprime lorsque, parlant de l'amour et de mon amour qui se définit, qui n'est pas un amour dans le vide et en général, je parle à une femme et à celle-là, non à une autre, qui se trouve être écrivain. Et le contenu même de ce qui est l'amour, de l'échange et de la vie entre nous ne peut être séparé de ce qu'elle est dans ce domaine, c'est-à-dire de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle pense et du rôle que cela joue nécessairement par moi, par reflet et, comment dirais-je, comme dans le mouvement de ma pensée, comme musicalement.
De l'air que te fera ta chant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Olivier Barbaran, on ne peut pas parler de la poésie d'Aragon sans faire référence à Elsa, qui est à peu près omniprésente, à la fois dans les titres des poèmes, et puis aussi à l'intérieur des poèmes.
Oui, et c'est un pan à la fois massif, consistant et complexe, et qui ne se réduit pas évidemment à quelques images compliquées par la présence d'une dame appelée Elsa Triolet à côté de l'Elsa des pages. Et je suis toujours ravi de réentendre le discours très ambigu d'Aragon là-dessus, parce que il nous dit qu'il parle d'une femme, puis il nous dit qu'il parle à une femme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, donc son discours est adressé. Elsa Triolet elle-même, lorsque elle a pu avoir la parole sur ce mythe qu'il a constitué, disait bien, a tenu à faire tourner à Agnès Varda une scène très fameuse d'un petit film qu'Agnès Varda a tourné sur eux, où elle frappe à la porte du bureau et où elle demande à Louis si elle le dérange, et il répond « Oui, tu me déranges, je suis en train d'écrire un poème à Elsa ». Elle tenait donc beaucoup à montrer l'écart et à dire que la vérité de leur rapport n'était pas peinte dans ses poèmes, donc, alors que lui tient à l'ancrage biographique.
Donc elle est moins dans la fabrication du mythe que Louis lui-même.
Ah oui, on a prétendu l'inverse pour des tas de raisons, là aussi parce qu'on pensait que le mythe serait une demande de la part d'Elsa. Alors bien entendu, tout cela est très compliqué parce qu'il y a derrière aussi le fait que il s'agit d'être en rivalité avec l'un des autres modèles qui ont beaucoup plu à Aragon et à défier. Il défie à travers le discours amoureux presque toute la littérature. Pourra-t-il faire aussi bien que Ronsard? Pourra-t-il faire aussi bien que Pétrarque? Il traduit Pétrarque d'ailleurs à un moment, il le traduit splendidement. Pourra-t-il faire aussi bien que Mayakovsky l'a fait avec Lili Bric? Lili Bric qui a été préférée à Elsa lors de la rivalité amoureuse des deux sœurs autour de ce génie. Il y a donc une compétition, il y a visiblement une compétition dans le discours amoureux. Par ailleurs, je crois pour ma part que devant ce discours qui est parfois splendide, qui est souvent splendide, parfois démesuré et parfois qui bloque les choses.
Enfin, pourquoi il me semble démesuré?
Démesuré parce que les rapports d'égalité. Et si le féminisme d'Aragon, dans son écriture et dans son discours, a toujours été constant, y compris dans la période surréaliste, où par exemple dans les recherches sur la sexualité, il était beaucoup plus ouvert que les autres, et beaucoup plus ouvert au féminin, voire à l'homosexualité que les autres.
Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'archive. Il dit au fond que s'il aime Elsa, c'est parce que Elsa fait des choses. Elle écrit des poèmes et que c'est ça qui la rend, qui lui donne de la valeur en fait.
Et il peut la faire parler. C'est d'ailleurs une des choses intéressantes dans, par exemple, Les Yeux d'Elsa. À la fin des Yeux d'Elsa, le cantique à Elsa donne la parole à la muse, ce qui n'est pas si fréquent, qui intervient pour lui expliquer comment il devrait écrire et que son poème est trop complexe et trop peut-être dans la lyrique démesurée de l'amour absolu, alors que les gens auraient besoin peut-être d'un discours plus concret, plus immédiat. Il lui donne la parole pour qu'elle le renvoie vers la réalité.
Et puis il y a la phrase « La femme est l'avenir de l'homme », qui a eu quand même une bonne fortune.
Voilà, alors Baudelaire disait que le génie, c'était de créer un poncif. En voilà un, et en voilà une preuve du génie. Je continue de penser que derrière le côté un peu tarte aux pommes maintenant de cette formulation que tout le monde utilise n'importe quand, je pense que l'avenir de l'humanité est le féminin, et je crois que de ce point de vue, il a raison.
Alors donc, Elsa, elle est célébrée dans les poèmes, elle représente davantage qu'elle-même. Qu'est-ce qu'elle représente d'autre que, du coup, la simple femme de Louis Aragon ?
Certains ont pensé qu'elle pouvait représenter, par exemple, dans le discours de la Résistance, puisque finalement, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale qu'Elsa entre dans le poème, précisément avec le Crève-Cœur, et ensuite avec les yeux d'Elsa, et puis elle connaîtra une sorte d'ascension tout à fait passionnante à suivre, jusqu'à apparaître non plus seulement dans le titre, mais à faire titre elle-même, Elsa, le poème Elsa de 1959, et ensuite le fou d'Elsa sur lequel il faudrait évidemment revenir, puis il ne met Paris que d'Elsa. Bref, elle revient, mais elle revient avec une sorte de montée en intensité, d'abord dans les poèmes, puis sur la couverture, puis faire couverture à elle seule. Il me semble que Elsa Valls, dans les yeux d'Elsa, et d'autres formulations montrent bien que Aragon travaille aussi en poète, et il travaille aussi derrière la personne biographique qu'il prétend désigner, avec une cellule sonore. Elsa se retourne en valse. Elsa, c'est aussi le point, et c'est sans doute pour cela que c'est compliqué, le point névralgique de déclenchement du chant. Comme souvent dans la lyrique amoureuse, d'une certaine façon, c'est la puissance et l'intensité du déploiement lyrique qui porte le nom d'Elsa. Alors, quel est le rapport ensuite entre ce nom d'Elsa et la personne réelle biographique? Elsa prétend que les plus beaux poèmes d'amour n'ont pas été écrits, dit-elle avec beaucoup de jalousie. Pour moi, ils sont ceux qui ont été écrits pour Nancy Cunard. Pour ma part, je le crois un peu parce que le discours amoureux d'Aragon est tout de même très problématique si on le regarde de près. D'une part parce que les plus beaux poèmes sont des poèmes d'amour déchirés. Nous ne sommes pas dans l'épanouissement lumineux et heureux érotique d'un Éluard, par exemple. C'est la déchirure qui vaut, c'est la rupture. Ce n'est pas pour rien que l'un des plus célèbres poèmes, c'est évidemment « Il n'y a pas d'amour heureux ». C'est donc la déchirure et la fracture qui vit entre les êtres qui est mise en avant dans un mythe qui prétendrait être un mythe de la somptuosité de l'amour.
En fait, c'est assez narcissique, finalement, tous ces poèmes à Elsa. Vous disiez tout à l'heure qu'il voulait se mettre en compétition avec Ronsard. Effectivement, c'est ça. En fait, Aragon ne parle que de lui. Il invente un mythe que sa femme ne partage pas vraiment, mais auquel le grand public croit pourtant très très fort, et dans lequel il peut se regarder comme ça, sans arrêt, presque.
Je pense que c'est narcissique. On pourrait le dire d'une certaine façon. Je me demande si l'un des problèmes majeurs d'Aragon est qu'il n'occupe pas toujours toute la place, qu'il le veuille ou non. Et je crois qu'il occupe même la place du féminin. Et occupant même la place du féminin, évidemment, il ne laisse plus grand-chose à ceux dont il parle. Cependant, ce narcissisme est à compenser, il n'est pas seulement subjectif. Je crois que c'est une manière pour le poème de s'interroger sur lui-même que de désigner Elsa comme une sorte de source. « mon Dieu, cela ne s'éteint pas, toute ma forêt, je suis là qui brûle. »
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles, où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive et meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Est-ce ainsi que les hommes vivent, chanté par Sappho? Vous l'aimez bien, cette chanson, ou le poème?
J'adore le poème. J'aime beaucoup cette interprétation qui renouvelle les choses en mettant des accents ailleurs, en s'appropriant véritablement avec des jets de voix à des endroits qui cassent le caractère peut-être de ritournelle que certaines mises en musique peuvent parfois produire.
Oui, puis qui est un petit peu andalouse et qui nous ramène au Fou d'Elsa.
Oui, je suis très heureux de pouvoir parler du Fou d'Elsa. Le Fou d'Elsa est apparu là encore comme une sorte de monument d'énormes et dernières basiliques adressées à Elsa. Mais Elsa y prend tellement de formes, de sens et de symboles que finalement elle est elle-même perdue d'une certaine façon dans tous ces miroirs. Hein. Pour finir là-dessus, je ne suis pas sûr qu'Elsa Triolet ait bénéficié beaucoup du mythe qu'Aragon a construit sur elle. Voilà. Pour ce qui est du Fou d'Elsa, Aragon, dans une démarche presque de retour historique, réaccomplit ce qu'il a accompli avec les yeux d'Elsa en 1942 pour essayer de retrouver les sources du lyrisme. Et les sources du lyrisme, qu'il disait médiéval compte tenu de son information en 1942, lui paraissent naître dans notre propre pays de l'influence de la poésie arabo-andalouse. Et donc il revient, vous voyez, dans une sorte de démarche qui, à mesure que son œuvre progresse, remonte encore plus avant dans les origines. C'est un mouvement absolument passionnant. Et dans le jeu de miroir qui s'établit ainsi entre 1942 et 1492, la période où se déroule les yeux le Fou d'Elsa, il restitue aussi, et c'est splendide, et c'est peut-être le livre d'Aragon le plus étonnant et le moins lu, et pourtant le plus nécessaire aujourd'hui, il redonne au sortir de la guerre d'Algérie en 1963 la dignité poétique et la grandeur civilisationnelle à une société avec laquelle nous venons de faire la guerre.
On peut dire que c'est un poème qui nous emmène donc dans l'Andalousie musulmane de la fin du XVe, à Grenade exactement, pour raconter la chute de la ville de Grenade.
Tout à fait. Et vous voyez bien que cette troisième période, ouverte en gros avec le roman inachevé, avec cette autobiographie où il y a la nuit de Moscou par exemple, Moscou associée à la nuit, tout en disant qu'il y aura un soleil ensuite, cette troisième période n'abandonne aucunement le terrain historique, puisque à travers la chute de Grenade, c'est la question de la chute de l'utopie qui vaut. Aragon écrit le Fou d'Elsa au sortir d'un grand travail sur l'histoire de l'URSS et des États-Unis comparé qu'il écrivait avec André Mauroy. André Mauroy pour les États-Unis et lui pour l'URSS. Et c'est traversé aussi.
C'est d'une objectivité fantastique.
À le relire, on est étonné tout de même, il y a un ton d'époque, il y a évidemment ce qu'on ne disait pas à l'époque, on est étonné tout de même de ce que, par le biais sans doute de la période du dégel, des choses étaient dites cependant d'un bilan déjà. Et de la même manière, Mauroy ne passait pas son temps à célébrer seulement les États-Unis. Enfin, c'est un travail d'intellectuel plus riche, même s'il est évidemment d'époque, qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais c'est au sortir de cette retraversée pour laquelle il a tant peiné, et il a eu même beaucoup de mal à affronter cela, qu'Aragon écrit, comme dans les marges, ce chef-d'œuvre extraordinaire qui est vraiment, je le crois, je voudrais le dire avec quelque force, un livre qui fait peur parce qu'il est d'une telle érudition qu'il peut faire peur, mais qu'on peut traverser assez aisément si l'on n'est pas perdu dans la volonté de savoir exactement à quoi correspondent tous les vers qu'il utilise.
Il faut se laisser porter, livre, en fait.
Il faut se laisser porter, bercer, emporter par cet océan. Et en même temps, je crois que c'est le livre le plus nécessaire, l'un des plus nécessaires d'Aragon aujourd'hui, et qui montre à quel point il peut être encore en avance et non pas un poète daté.
Vous pouvez en citer un peu de tête?
Oui, je peux en citer un peu de tête. Mais je ne sais pas si c'est compliqué d'en citer de tête, parce que ce qu'il y a de splendide, c'est aussi comment la prose et le vers se mélangent, comment le vers libre se mélange aussi à la prose, comment le vers non compté vient affronter ce qu'on connaît le mieux, et sont souvent les vers comptés. Il faudrait commencer peut-être, il faudrait citer quelques extraits qui sont très étranges et qui sont presque des poèmes aussi inattendus de la part d'Aragon et qui sont splendides. Je pense par exemple à un événement lyrique à propos de Jean de la Croix où il s'interroge sur ce que peut être la poésie mystique pour lui. Et loin d'une dérive coranique, c'est le terme qu'a utilisé étrangement Philippe Solers à propos du Fou d'Elsa, il s'agit plutôt d'une méditation sur la puissance de la poésie. Et il y a ce final de Jean de la Croix, « Jean de la Croix, tu me ressembles », et cela finit par « Et les clous de Dieu dans son âme ». Je trouve ce vers splendide.
Est-ce qu'il n'y a pas de la violence aussi dans la poésie d'Aragon? Alors c'est un peu un retour en arrière, mais le lyrisme d'Aragon parfois fait presque peur quand on le lit aujourd'hui. Tous les médecins social-fascistes tomberont aux mains des émeutiers qui les colleront au mur. Feu sur Léon Blum, feu sur Boncourt, Frossard, Déa, feu sur les ours savants de la social-démocratie sous la conduite du Parti communiste, SFIC. Vous attendez le doigt sur la gâchette, feu. Moi, je dois vous avouer que quand je suis tombé par hasard pour préparer cette émission sur ce poème, Front Rouge, j'étais à la fois surpris par la force poétique du poème, mais en même temps, je me suis dit, comment est-ce qu'on a pu écrire quelque chose d'aussi violent ?
Aragon, dans l'œuvre poétique, encadre ce texte d'une formulation, ce poème que je déteste. Nous avons beaucoup de désaccords sur ce poème que je déteste, personnellement.
Après, alors, il a écrit ça bien après.
A posteriori. Et peut-être le déteste-t-il aussi parce que c'est le poème qui a suscité ou qui a conduit à la rupture avec Breton d'une certaine manière. Peut-être que sa détestation n'est pas une détestation complète. Personnellement, j'ai sans doute une vision altérée par ma dilection et ma préférence vraiment pour la troisième période d'Aragon. Il me semble que le lyrisme y est tellement plus intense et tellement plus fort que ce pas militant ne me paraît pas être le plus grand chef-d'œuvre lyrique d'Aragon. Et donc, si certains sont emportés, certains le disent généralement à proportion qu'ils peuvent minimiser la dimension politique. Jean d'Ormesson passe son temps à dire que c'est un de ses poèmes préférés et qu'il tient. Moi, j'ai beau essayer de le lire, je trouve que ça crie et que ça... Ce sont des débordements qu'on pourrait retrouver dans des usages peut-être un peu brutaux de la langue, comme il en existe dans une littérature militante ou dans des productions, je ne sais pas. Peut-être que le Front Rouge en rap passerait assez bien, mais comme ce n'est pas tout à fait ma vision du lyrisme, je ne sais pas s'il y a vraiment du lyrisme dans Front Rouge. En tout cas, moi je ne l'entends pas, même si certains me disent qu'il y est.
En tout cas, c'est un poème qu'on vous conseille tout de même de relire pour voir comment on peut galvaniser des foules grâce à de la poésie. On ne pense pas si souvent que cela à ce moyen. Merci beaucoup, Olivier Barbaran.